Pluie ce soir, minimum de 11. Demain, ça se dégage, maximum de 15. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenons soin des autres. Demain, Pit Stop 7:45. Demain, 14h avec les demoiselles.
Salut!
Bye!
Boulevard 102, célèbre ses 10 ans. Il y a 10 ans, Leclerc Communication lançait sa radio 100% conçue à Québec et pour les gens de Québec. Le 22 octobre dès 17h, ne manquez pas l'événement 10 ans de Boulevard au Malcommode. Lancement de la bière La Gravelle, édition 10 ans Boulevard. Et l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro, qui souligne 20 ans de carrière.
20 ans?
Le 22 octobre dès 17h au Malcommode. Musique live avec Big Bob, un paquet de surprises et une soirée mémorable avec toute l'équipe de Boulevard. Venez nous rejoindre, c'est ouvert à tous. Gagnez vos billets VIP en écoutant Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. Mon invité de ce soir pour le podcast, c'est le docteur Pascal Renaud, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. On va discuter du projet de loi 106 de Christian Dubin, qui fait tant jaser chez les médecins ces temps-ci. Juste avant de débuter le podcast, aujourd'hui, ça a été ensoleillé, on était gâtés. Il y a des averses qui sont arrivées à certains endroits dans les dernières heures et ça va se continuer pour ce qui est de ce soir. Maximum de 26 et avec l'humidex, on a atteint presque un genre de 28-29 comme température ressentie. Donc, ça a été relativement une belle journée. Mais ce soir, on parle de risque d'orage entre 10 et 20 mm annoncés. Mercredi, demain, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de 14. Jeudi, ensoleillé, maximum de 11 et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 14 et le topo pour le week-end n'a toujours pas changé. Plein soleil samedi, plein soleil dimanche. Le podcast avec le docteur Pascal Renaud commence à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
C'est un plaisir de passer la soirée avec lui. C'est rare qu'on ait la chance d'avoir un médecin pendant 60 minutes. C'est le président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Son nom, c'est le docteur Pascal Renaud. Monsieur Renaud, bonjour.
Bonsoir, je suis content d'être avec vous.
Merci d'être là. Depuis combien de temps êtes-vous médecin?
Depuis 2001.
Depuis 2001, donc vous avez vu les années 80 et les années 90 où années 90, ça a été le moment où on a eu un peu plus de misère en santé. Et vous êtes sorti de la médecine en 2001. Est-ce que vous êtes urgentologue depuis tout ce temps?
En fait, je suis médecin de famille.
Oui.
Puis les médecins de famille travaillent entre autres à la salle d'urgence. 85% des médecins que vous voyez dans une salle d'urgence, c'est des médecins de famille.
OK.
Donc, moi, ma formation de base, c'est de la médecine familiale. Puis j'ai fait un certificat en médecine d'urgence d'une année supplémentaire pour être plus habile en salle d'urgence.
OK. Puis qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin?
Quand j'étais jeune, j'avais des otites là, un peu à répétition.
Ouais.
Puis un de mes voisins était mon médecin de famille. Donc, à la fin de sa journée de travail, passait nous voir à la maison, examiner mes oreilles. Puis, je trouvais que son travail avait l'air cool. Donc, j'ai dit, c'est ce que je veux faire quand je vais être grand.
Donc, vous devez votre carrière à vos multiples otites quand vous étiez
bébé. Exactement, oui.
Wow, c'est formidable. Ça ressemble à quoi l'horreur d'un médecin aujourd'hui?
Ah, c'est très variable. Un médecin de famille peut travailler dans différents types de pratiques.
Ouais.
Il peut être au bureau. Ce que les gens reconnaissent souvent, c'est d'être dans un cabinet, voir des patients.
Mm-hmm.
C'est des longues journées. C'est des journées qui commencent là, le matin, là, souvent autour de 8 heures. Qui se termine autour de 17 heures. Puis après ça, mais c'est la paperasse. Hein. La paperasse, c'est à peu près 2 heures de travail par jour que les médecins de famille ont actuellement. Donc, les journées s'éternisent souvent là, jusqu'à 19 heures là, à remplir cette paperasse-là.
OK, quand même. Et est-ce que, comme urgentologue, vous avez des horaires atypiques? Des fois, c'est le jour, des fois, c'est le soir, des fois, c'est la nuit?
À l'urgence, en fait, l'urgence est ouverte 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Oui.
Donc, on est là de jour, de soir, de nuit, de semaine, de fin de semaine. Donc, on a des à peu près 75% de nos quarts de travail sont sur des heures défavorables.
Oui. Vous passez combien d'heures par jour et combien de patients par jour durant votre travail?
C'est intéressant comme question parce que ça a beaucoup changé depuis le début de ma pratique.
Ouais.
À l'urgence ambulatoire, là, où les patients arrivent sur pied avec des maladies, des pathologies qui sont moins graves,
mm-hmm.
quand j'ai commencé à pratiquer jusqu'à avant la pandémie, je voyais à peu près 30 à 35 patients par jour. Mais les maladies sont plus complexes qu'elles étaient.
Ouais.
Maintenant, je vois parfois moins de 20 patients par jour à la salle d'urgence ambulatoire.
Parce que vous prenez plus de temps ou parce que, bon, la population est vieillissante, ce qui fait en sorte qu'il y a, bon, il y a une grosse demande. Comme vous mentionnez, les maladies sont un peu plus graves que ça l'était dans le temps.
La population vieillit.
Oui.
Donc, c'est très rare que j'ai un patient qui va venir à la salle d'urgence parce qu'il a mal à la gorge. Le gap, entre autres, a permis d'avoir des rendez-vous pour ces patients-là qui leur évitent la salle d'urgence. Donc, ce que je vois à la salle d'urgence, c'est des cas qui sont plus sévères, même ceux qui arrivent sur pied.
Ouais. Donc, à l'urgence, c'est pas juste des rendez-vous de 15 minutes. Là. Ça se peut, des fois, que vous preniez plus de temps avec la personne qui est face à vous.
Ah oui. Par exemple, la semaine passée,
ouais,
j'ai eu un patient de 15 ans qui avait des idées suicidaires. Donc, c'est pas quelque chose que je peux régler en 5 minutes. Là.
Non, c'est ça.
Donc, j'ai passé 60 minutes avec ce patient-là. Donc, c'est sûr que pour les gens dans la salle d'attente, c'est plate parce que j'en ai pas vu quatre là, pendant cette heure-là.
Exact.
Mais ce patient-là avait besoin de moi, avait besoin de me parler, avait besoin de parler à quelqu'un, d'un professionnel. Donc, ouais, j'ai pris le temps que ça prenait.
OK, mais c'est très pertinent de parler de ça. Honnêtement, je pensais pas que c'était les médecins d'urgence qui devaient discuter avec les patients qui voulaient mettre fin à leur jour. Je savais qu'il y avait des dispositions pour ce qui est des gens qui voulaient mettre fin à leur jour. Puis je suis très content que ces gens-là se rendent à l'urgence puis qu'ils disent à l'infirmière, savez-vous quoi, j'ai un plan pour mourir, je veux rencontrer un médecin. Mais je savais pas que c'était vous directement qui receviez les patients puis que vous les rencontriez pendant 60 minutes. Dans ma tête à moi, puis c'est souvent bien différent de la réalité, j'étais persuadé qu'il y avait un psychologue qui était attitré ou peut-être même un psychiatre qui pouvait être dans la place pour aider.
En fait, tous les patients qui se présentent à la salle d'urgence, on doit les voir en premier.
OK.
Parce que même les gens qui ont des pathologies de santé mentale, ils peuvent avoir une intoxication en arrière, ils peuvent avoir d'autres problèmes de santé physique qu'on doit éliminer avant de faire voir par le psychiatre. Puis je vais donner un exemple d'un patient que j'ai passé une heure avec, mais il y a des patients aussi où c'est très clair qu'ils doivent voir le psychiatre, où je peux passer 15 minutes avec lui puis le référer pour voir le psychiatre par la suite. Là. Donc, c'est pas toujours 60 minutes. Là. Je veux pas que les gens pensent que c'est la norme. Là.
Non, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui peuvent se présenter à l'urgence avec plusieurs problématiques. Est-ce que vous passez chaque problématique? Parce qu'il y a des légendes urbaines qui circulent. Quand j'ai parlé avec les gens du Collège des médecins, on m'a dit « Non, M. Marceau, ça n'existe pas. » Des médecins qui disent « Un problème, un rendez-vous, ça n'existe pas, ça n'existe pas. » Et à ce moment-là, je vois toujours les auditeurs qui communiquent avec moi en disant « Non, non, Yann, moi, ça m'est arrivé. Là. Mon médecin, dans ce cas-ci, de mémoire, c'est un médecin de famille, disait « Un problème, un rendez-vous. » Puis là, ben, il faut reprendre un autre rendez-vous pour essayer de régler le deuxième problème. Comment ça fonctionne chez les urgentologues?
C'est rare qu'on va passer à travers 10 problèmes là, dans un rendez-vous.
Ouais.
Parce que, par contre, on va demander au patient de dire ben, c'est quoi les problèmes que vous avez. Puis on va souvent lui demander choisissez-en un, puis moi je vais en choisir un qui me semble plus urgent dans votre liste. Donc, c'est comme ça que généralement on passe à la salle d'urgence. Puis ce que vous faisiez référence là, avec souvent les patients qui sont orientés par le gap, entre autres,
ouais,
où on entend souvent ces plaintes-là de dire ben, il m'a dit un problème. Bien, les plages sont prévues pour un certain temps. Donc, ce que les médecins, ce que ceux qui sont dans la région ici, dans la région où je travaille, me disent, c'est qu'ils vont voir un ou deux problèmes, questionner ce qui va autour, mais ils vont lui donner un autre rendez-vous pour les autres. Ils ne seront pas juste abandonnés en disant « on règle seulement un cas », mais si à chaque patient pour lequel un rendez-vous était prévu de 20 minutes, par exemple, on a réglé une heure de problème, bien, la journée finira plus, puis les autres patients vont être aussi
je comprends.
Très insatisfaits.
Est-ce que, puis là, je suis en train de fouiller dans mon sac de préjugés qui est à terre, ça peut-il être une question d'argent?
Un problème? En fait, il y a la rémunération. Moi, je suis très, très transparent par rapport à ça. Là.
Ouais.
On est payé à l'acte, la majorité des médecins. Il y a certains médecins qui sont à tarif horaire, mais la grande majorité sont payés à l'acte. Puis une visite, c'est un acte. Donc, si la visite dure une heure comme la mienne de l'autre jour,
ouais,
ou qu'elle dure 15 minutes,
ça va être le même montant.
OK.
Mais un médecin qui dit un rendez-vous, un problème, lui, il ne pense pas à l'argent. C'est juste qu'il faut qu'il passe le plus de patients qui sont prioritaires avec des bobos prioritaires.
Il pense à ses autres patients aussi.
Je comprends.
Si on a des rendez-vous prévus aux 20 minutes, la majorité des médecins, là, c'est entre 20 et 30 minutes les rendez-vous.
OK.
Okay? S'il passe une heure avec un, bien, c'est les 7, 8, 9 prochains patients qui vont payer cette attente-là. Puis s'il le fait à 3 patients consécutifs, puis il ramasse 3 heures d'attente, c'est sûr que les autres vont être insatisfaits.
Je comprends très bien. Monsieur Renaud, Pascal Renaud, vous êtes docteur et président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Pourquoi vous êtes impliqué avec l'Association des médecins omnipraticiens jusqu'à en devenir président?
j'ai commencé très jeune à m'impliquer au niveau des fédérations médicales. Quand je suis résident, donc un étudiant en médecine, j'étais président de l'Association des médecins résidents de l'Université Laval. Ici.
Ouais.
Puis, j'ai toujours aimé ça parce que puis ce que j'aime de la fédération et de l'association maintenant, c'est oui, on défend les conditions des médecins, mais on fait beaucoup d'organisation de services. Donc, on essaie de travailler pour établir là, des trajectoires, là, pour aider les patients à avoir un meilleur accès. Entre autres, le GAP, c'est une idée qu'on a eue avec le gouvernement pour dire puis, comment on peut faire que les patients orphelins aient un accès médical. Puis on se rappelle, à l'époque, c'est le gouvernement nous avait dit il y a trop d'orphelins, il faut qu'ils puissent avoir un accès. Il manque entre 1 500 et 2 000 médecins de famille au Québec. Donc, on ne pouvait pas les inscrire individuellement, tout le monde, mais on a trouvé un chemin de passage en disant on va libérer certaines plages pour donner accès à la population qui n'ont pas de médecin de famille.
OK, puis ils ont mis en place aussi, moi j'ai eu ça pour la première fois il y a de ça quelques mois, fallait que je me fasse poser un holter pour vérifier si mon cœur était correct, heureusement tout est correct, mais il fallait que je rencontre quelqu'un, puis on m'a attitré à une infirmière praticienne.
Oui.
Qui pouvait faire l'acte, mais même être assisté d'un médecin qui était dans la clinique, là, si jamais il y avait une problématique supérieure. Mais moi, de A jusqu'à Z, c'est elle qui s'est occupée de moi, puis ça avait relativement bien été. Ce qu'elle a fait, elle a enlevé un patient de moins là, qui était en attente pour vous rencontrer.
Mais ça fait plusieurs années là, qu'on travaille en collaboration avec les autres professionnels. Ouais. Puis nous, on demande plus d'aide des autres professionnels aussi. Dans les groupes de médecine familiale, il y a des infirmières cliniciennes, puis... Quand j'ai commencé ma pratique, ça n'existait pas, ce modèle-là. Donc, un médecin voyait un patient qui était hyper tendu, puis les recommandations canadiennes disaient qu'on doit le suivre 4 fois dans l'année. Donc, le médecin donnait 4 rendez-vous. Maintenant, il y a des infirmières cliniciennes qui...
C'est praticienne ou clinicienne?
Il y a deux types là, d'infirmières qui okay. travaillent avec nous.
La clinicienne, c'est elle qui a un bac. La exact. Praticienne, elle va chercher une maîtrise?
C'est l'équivalent d'une maîtrise. Ils font 2 années supplémentaires là, après le bac.
Voilà, OK.
Où ils ont des stages qu'ils font avec les étudiants de médecine aussi là, dans ces stages-là.
OK. Puis eux sont capables de prescrire des médicaments, prescrire des...
Les infirmières praticiennes spécialisées, oui, peuvent prescrire des médicaments.
Ouais.
Les infirmières cliniciennes utilisent des ordonnances collectives. Donc ça en gros, c'est qu'ils ont, de façon collaborative, médecins et infirmières travaillent ensemble pour dire, bon, mais si la tension artérielle de mon patient est en haut de 160, bien, on va ajouter telle molécule. Donc là, à ce moment-là, ils ont le droit, dans l'ordonnance collective, d'ajouter des médicaments sans avoir à consulter le médecin.
Ah, je comprends.
Par contre, si le patient va vraiment pas bien, il y a un accès facile à revoir son médecin de famille dans ce temps-là ou le médecin de la clinique qui l'a référé.
OK. Fait que ça facilite un peu vos tâches. Les pharmaciens aussi qui sont embarqués dans les dernières années dans vos tâches, ça, c'est-tu une avenue, ça? Est-ce que c'est vers là que le Québec s'en va? Vous avez l'impression? Est-ce qu'on va donner plus de tâches aux pharmaciens, aux infirmières cliniciennes, aux infirmières praticiennes parce qu'on manque de médecins au Québec?
Bien, oui, il nous manque, comme je répète, là, j'ai l'impression de me répéter, mais il nous manque 1 500 à 2 000 médecins. On n'a pas le choix d'avoir l'aide des autres.
Ouais.
Puis c'est quelque chose qu'on aime aussi travailler en collaboration avec les autres professionnels. Puis ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est que les autres professionnels manquent aussi d'effectifs. Donc on a des pharmaciens qui nous écrivent, bien, je faisais le suivi de l'hypothyroïdie de ce patient-là en ajustant sa médication en fonction des laboratoires que maintenant il a le droit de prescrire, mais je ne peux plus le faire parce qu'on manque d'effectifs. Donc, encore une fois, ça revient sur le dos du médecin de famille de régler ces problèmes-là.
Puis qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte qu'on manque de médecins comme ça? C'est une mauvaise planification du gouvernement? C'est des tests d'admission qui sont peut-être trop élevés? Moi, je vais vous avouer quelque chose, là, que les tests d'admission soient très élevés. Je serais content de savoir que mon médecin qui m'opère le cerveau a eu 100% dans tous ces examens-là. Si on me dit un jour, on va accepter quelqu'un qui passe sur la fesse à 60%, j'aurais bien de la misère avec ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on manque autant de médecins alors que c'est des jobs, c'est des maudits de bonnes jobs?
Il y a eu une très mauvaise planification il y a 15 ans.
Ouais.
À ce moment-là, le gouvernement pensait qu'il y aurait trop de médecins pour la population. Mm-hmm. Donc, ils ont diminué les entrées en médecine. Il y a un côté que je trouve bon de la CAQ. Ils ont augmenté là, dans les dernières années.
Ouais.
Donc, moi, quand j'ai commencé ma médecine, on était 400 nouveaux médecins qui entraient dans les universités. Maintenant, en 2025, il y en a eu 1 100 à peu près qui rentrent.
Okay. Donc, on produit de plus en plus des médecins.
Oui. Puis, on est quand même bon comme médecin. La population vit plus vieille qu'avant.
Ouais.
Donc, la population augmente en nombre. ce qui n'a pas nécessairement été bien calculé à l'époque. Puis, on a des nouveaux arrivants, on a plein de raisons là, d'avoir plus de besoins médicaux.
Vous parlez des nouveaux arrivants. Il y en a qui ont déjà leur doctorat, en fait, du moins, c'est ce qu'ils nous disent. Là. Comment ça fonctionne quand un médecin provient de l'extérieur puis qui arrive ici? Et as-tu un chaperon pendant quelques années? Est-ce qu'il doit repasser par nos universités pour revoir certaines façons de faire ici, chez nous, en Amérique du Nord? Parce que ce qu'un médecin m'avait raconté, c'est que, bon, c'est pas les mêmes problématiques. Là. Puis les moustiques en Afrique, exemple, versus les moustiques qu'on peut avoir au Québec, c'est pas la même affaire. Fait qu'il doit avoir une mise à jour. Mais concrètement, c'est quoi?
En fait, ça dépend d'où vient le médecin.
Ouais.
Il y a des ententes avec la France où ils peuvent avoir un permis de pratique au Québec. Les États-Unis aussi.
Ouais.
Par contre, les autres pays, c'est le Collège des médecins qui gère ça, qui évalue c'est quoi leur connaissance, leur capacité. Puis après ça, ils disent, bon, soit que tu recommences ton cours de médecine au complet, soit que tu recommences directement à la résidence.
OK.
Donc, c'est les diplômés hors Canada et États-Unis. On en a toujours dans les stages. Puis cette compétence-là, c'est vraiment le Collège des médecins qui s'occupe de l'évaluer, c'est pas les fédérations médicales. Là.
C'est eux qui s'en occupent. Mmh. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous opposez au projet de loi du ministre Bérubé?
Le projet de loi 106...
Dubé.
Oui. Le projet de loi 106, en fait, il y a plusieurs blindes seins, des mauvais côtés là, de ce projet-là. Puis le plus important là, pour nous autres, c'est la volumétrie. Ils nous demandent de voir 18 millions de visites par année. Puis je vous expliquais tout à l'heure, les visites sont plus longues parce que les patients sont plus complexes. Actuellement, on est autour de 14 millions de visites qu'on est capable de faire par année. Donc, si jamais on veut monter à 18 millions, on va avoir deux choix, là. Soit qu'on diminue la longueur de nos visites, puis là, les patients ne seront pas contents parce qu'on va redevenir à la médecine fast-food un peu avec un patient, un problème, puis on va te faire une deuxième visite. Le modèle de l'Ontario est beaucoup basé sur une visite, un problème. Puis, il arrive avec des chiffres là, qui sont plus élevés que nous autres en termes de visite, mais sont beaucoup moins longues.
Christian Dubé qui veut mettre en place le projet 106, le PL 106. Il y a le Collège des médecins et des groupes d'experts qui sont contre ce projet de loi-là. Est-ce qu'on a regardé du côté de la Coalition Avenir Québec ce qui se faisait ailleurs, les statistiques ailleurs, comment ça fonctionnait avec des sociétés qui fonctionnent un peu comme la nôtre pour baser ce genre de projet de loi-là? Parce que j'ai l'impression que Christian Dubé n'a pas des médecins compétents autour de lui pour lui dire ben ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Parce que quand un groupe d'experts qui est mandaté dit non, on est contre ça, c'est peut-être parce que la loi est mal ficelée?
En fait, à peu près tous les médecins là, sont contre le projet de loi 106. Le Collège des médecins, dans son mémoire en commission parlementaire, l'a bien dit. L'association des CMDP, qui sont les conseils des médecins dentistes et pharmaciens des hôpitaux, a aussi écrit une lettre au ministre Dubé comme quoi ils sont contre ce projet-là. Après ça, les fédérations médicales, les médecins du terrain, tout le monde est unanime là, pour dénoncer ça. Parce que pour nous, la qualité est importante, puis ce projet de loi-là risque de brimer un peu cette qualité-là en fonction d'augmenter le volume.
Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un Christian Dubé sort des statistiques parfois en disant « Bien, vous voyez, on a constaté que le lundi, au niveau de la prise de rendez-vous, c'est assez relax. Certains soirs de semaine, c'est assez relax. La fin de semaine, c'est assez relax. » Est-ce que ça, c'est des préjugés qui sont véhiculés par Christian Dubé ou il y a des médecins qui, le lundi, ben c'est une journée peut-être off et le vendredi, c'est une journée peut-être off et le soir, c'est une journée peut-être off?
En fait, le ministre Dubé a été un peu manipulateur, je trouve, quand il a présenté ces chiffres-là.
J'aime
il a
ça.
Dit 63% des rendez-vous sont donnés du mardi au jeudi. Mais une semaine de travail, généralement, c'est du lundi au vendredi. Donc, il reste 19% pour le lundi, 18%. Donc, on est à peu près dans les mêmes chiffres, 20% là, partout. Sauf que lui, il l'utilise en parlant de la fin de semaine. La fin de semaine, c'est plus là pour les urgences. Même chose si je vais, j'ai un problème avec mon réfrigérateur. Je vais avoir de la misère à faire venir un technicien la fin de semaine pour le réparer. Donc, puis, si le patient va dans une clinique, bien, il n'y aura pas nécessairement la clinique de radiologie d'ouverte la fin de semaine. Il n'y aura pas nécessairement le CLSC pour faire les pansements de son patient.
Ouais.
Donc, on est beaucoup plus productif quand on travaille tous ensemble. Puis, les autres ressources ne suivent pas les fins de semaine et les soirs. Ceci dit, il y a plus de 350 groupes de médecine familiale qui, eux, ont des ouvertures tous les soirs puis tous les fins de semaine. Là.
Donc, ce que je comprends, c'est que vous ne voulez pas de la médecine fast-food. C'est quoi les codes de couleur?
Les codes de couleur, c'est un patient qui est en santé serait la couleur verte.
Mais normalement, c'est le contraire. Là. Si quelqu'un arrive, je suis médecin, il vient me voir et il est de couleur vert, je ne suis pas sûr qu'il est en santé, là, mais je comprends.
Ouais. Effectivement. S'il a une pastille jaune, à ce moment-là, il est à risque de développer des maladies chroniques.
Intermédiaire, OK.
S'il est rouge, il est très vulnérable.
OK.
Ceci dit, on est vert tant qu'on n'a pas trouvé la maladie qu'on a, là, parce qu'on va tous devenir malades un jour.
Ouais.
Puis cette échelle-là est faite de façon un peu arbitraire pour l'instant. Puis les médecins n'auront pas le temps de dire « je vais évaluer l'ensemble de la population du Québec pour dire s'ils sont verts, jaunes ou rouges » avant de les rencontrer. Donc, je ne sais pas comment le gouvernement va s'y prendre. Est-ce que c'est un fonctionnaire qui va établir votre code de couleur et votre chance d'avoir accès à un médecin de famille?
Bien, idéalement, ça me prendrait une infirmière extrêmement expérimentée ou un médecin qui est là pour rétablir mon code de couleur. Ouais. Parce que, tu sais, quand on va à l'hôpital, c'est rare qu'on va à l'hôpital pour rien. En tout cas, du moins, moi, je n'ai jamais été à l'hôpital pour rien. J'avais tout le temps quelque chose à faire là. Puis on a l'infirmière Audrey qui est là, qui nous évalue. Puis selon le code qu'elle nous donne, bien, ça va nous donner notre ordre de priorité. C'est jusqu'à 5 de mémoire, c'est
oui,
ça?
Le triage, c'est de 1 à 5.
Donc, tu sais, je veux que ce soit quelqu'un de professionnel qui soit là à l'accueil et que ce ne soit pas le gouvernement qui décide si je suis vert, jaune ou rouge. OK. La rémunération sur la base des indicateurs de performance collective. Dans beaucoup d'entreprises, ça fonctionne comme ça. Pourquoi on ne pourrait pas mettre ça en santé?
Bien, le côté collectif va avoir des enjeux pervers. Là.
Mm-hmm.
Je veux dire, comme animateur de radio, j'imagine que votre salaire est en fonction de vos codes d'écoute à vous et non de ceux de l'équipe de nuit là, qui sont là, là. Donc, c'est un peu le même principe. La majorité des médecins ont des très hauts standards là, de pratique avec une performance qui est importante. Puis, on a déjà une facturation à l'acte. Donc, si je vois moins de patients, bien, je vais être moins payé. Donc, c'est un indicateur de performance tant qu'à moi. Si les médecins de famille ont plus de 750 ou de 1000 patients inscrits, bien, il y a une rémunération en conséquence de ça. Donc, il y en a beaucoup qui existent déjà de façon individuelle. De façon collective, ça risque de mettre le trouble dans le réseau, là. Parce que les médecins qui sont les plus performants, s'ils sont pénalisés parce que les cibles sont inatteignables au niveau provincial, entre autres le 18 millions de visites que je vous parlais,
ouais.
Bien, ceux qui sont super performants, qui en font beaucoup, vont peut-être se dire « tant qu'à me faire pénaliser, je vais diminuer ma pratique pour me rendre en moyenne. »
Parce qu'on privilégiait, à ce moment-là, pour ce qui est de la rémunération, on privilégierait les gens qui font de la médecine fast-food. Puis vous ne voulez pas en arriver là. Ben,
exact. Le Collège des médecins non plus, il l'a dénoncé dans son mémoire.
Une dame de 80 années qui arrive puis qu'elle vous regarde, vous ne pouvez pas prendre juste 15 minutes pour parler de ses problématiques. Elle a besoin de plus de temps. Là.
Exactement.
Donc, nécessairement, de la façon dont on lui fait ça, c'est que vous perdez. Si la personne est très âgée puis vous devez prendre plus de temps, vous allez perdre de l'argent.
Ben oui, puis le problème aussi avec ces cibles-là, c'est que ces cibles-là sont très arbitraires. Le ministre a décidé 18 millions. Pourquoi 18 millions? On ne le sait pas. Il n'y a pas de chiffre qui back en arrière, dire « j'ai choisi 18 millions pour telle raison ». C'est 18 millions qu'il a mis dans le projet de loi. Puis pour, à l'urgence, un domaine que je connais bien, il veut que 80% des patients soient vus en dedans de 90 minutes. Donc, oui, c'est ce qu'on souhaite. Nous autres aussi, on aimerait ça. Mais actuellement, si je fais ça, ça se peut que pour répondre à des normes que le ministre nous dise, que j'ai envie de voir un patient qui a une écharde dans son doigt avant celui qui a une douleur à poitrine. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire ça.
Exact.
Puis, ce n'est pas nous, comme médecins, qui décidons qui on va voir. Là. C'est le triage qui nous dit « ce patient-là est plus urgent que celui-là ». Viens voir celui-là en premier.
Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je faisais de nombreux voyages aux États-Unis, puis j'étais à moto. Donc, à moto, on remarque un peu plus de choses que quand on était à voiture. Sur certains hôpitaux, il y a comme le temps d'attente. Là. T'sais, ici, c'est 15 minutes. Ici, c'est 7 minutes. Ici, c'est 4 minutes. Quand on regarde le temps d'attente, nous autres, de notre côté au Québec, c'est épouvantable. On se dit un peu, eux, comment ils font pour être capables de soigner des gens aussi rapidement? Puis il n'y a pas de temps d'attente versus nous autres. On dit qu'on travaille extrêmement fort puis on réussit jamais à trouver le bout. T'sais, qu'est-ce qui fait en sorte que là-bas, ça semble mieux aller? C'est moins de paperasse, une meilleure administration, plus de médecins?
En fait, ils ont plus de médecins.
Ouais.
Ils ont aussi une population qui doit payer pour ses frais, pour ses soins de santé.
Avec des assurances, mais en même temps.
Avec des assurances, mais ça diminue les gens qui consultent. Ça, c'est clair. Par contre,
très bon point. Mais nous autres, de notre côté, avec l'assurance maladie, on donne un très bon montant aussi au gouvernement pour être soigné.
Oui, sauf que le danger qu'on a avec s'il y avait un ticket modérateur ou d'autres choses qui ont été parlées dans le passé.
Ça, c'est Mario Dumont.
C'est qu'on va trouver des pathologies trop tard. Une fois qu'on sera plus capable de les guérir ou qu'ils vont nous coûter beaucoup plus cher pour les guérir. Entre autres, tout ce qu'il y a en prévention.
Parce qu'avec l'ADQ, l'ADQ de Mario Dumont, ça avait déjà été mentionné, ça, les tickets modérateurs. Il y en a qui trouvaient que c'était une super de bonne idée. D'autres qui disaient, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas la même santé là, que les autres. Donc, une fois que tu as passé au travers de tes étiquettes, tu dois payer constamment. Ça doit être assez ordinaire. OK, donc va pour le code de couleur. Une idée de fou, est-ce qu'on pourrait intégrer les médecins comme employés du gouvernement plutôt que de vous mettre travailleur autonome?
On pourrait.
Oui.
Par contre, il faut évaluer que le rendement actuellement d'être à l'acte fait qu'il y a plus de patients qui sont vus, plus d'heures travaillées. Selon deux études différentes, celle du DHEC récemment disait que les médecins travaillaient en moyenne 46 heures par semaine, les médecins de famille. Celle de l'ACPM, qui est notre assureur médical, disait que c'était 49 heures par semaine. Bien, il faut que tu comptes que le médecin, on va lui payer, un, ses frais de bureau, deux, du supplémentaire à partir de la 36e heure ou de la 40e heure, un fonds de pension. C'est toutes des choses qu'on n'a pas actuellement. Donc, quand les gens regardent le salaire du médecin, ils pensent que c'est un salaire, mais c'est une rémunération d'entreprise, en fait. Des frais de bureau dans la région de Québec, puis ça doit être encore un petit peu plus cher à Montréal, c'est à peu près 4 000 par mois. Donc, le premier 50 000 de rémunération
va
à payer ça.
Mm-hmm.
Il y a un modèle qui s'en vient de plus en plus populaire. Des médecins engagent eux-mêmes des infirmières pour les aider à travailler avec eux là, pour offrir un meilleur service à leurs patients. Donc, ça aussi, ça coûte quelque chose quand, à travers sa rémunération, le médecin le paye lui-même. Il y a nos assurances responsabilité, il y a notre cotisation collège des médecins. Donc, si on devient des employés de l'État...
Il faudrait prendre ça tout falloir... en considération.
Exact.
Okay. Parce qu'ailleurs, c'est tout ça? Ailleurs, les médecins travaillent pour les provinces? Aux États-Unis, j'ai l'impression.
Aux États-Unis, non. Ici, au Canada, presque pas non plus. Il y a à peu près 200 médecins qui sont employés de l'État de cette façon-là ici. Puis, ils ont leurs vacances de payer, ils ont leurs fériés de payer, ils ont des congrès de payer. Ils ont des choses qui s'ajoutent qui font que leur rémunération, même si à la base, ça en est moins intéressante, mais devient plus intéressante avec ces avantages sociaux-là.
Puis, les salaires des médecins comparativement au Québec, comparativement à ceux du Canada et des États-Unis, est-ce que ça peut se ressembler? Exemple, dans votre cas, vous êtes urgentologue, est-ce que ça peut se ressembler?
Un médecin de famille au Canada, sa rémunération globale, en moyenne, est à peu près de 330 000. Mais si on retire les frais de bureau et les autres frais qui peuvent aller entre 50 et 100 000 $ ça nous fait 230 000 de moyenne là, si on y va avec le 100 000. Là-dessus, il faut qu'il paie son fonds de pension lui-même. Donc, on est en bas de la moyenne nationale. Le gouvernement a fait des études là, à ce niveau-là. Il y avait, dans l'étude principale, il y avait trois scénarios qui disaient qu'on était entre moins 17 et moins 21 par rapport à l'Ontario. Puis un scénario qui disait qu'on était à plus 17. Puis comme de fait, le gouvernement ne défend que le scénario qui est extrême, qui est à l'extérieur de toutes les cibles des trois autres.
Ouais.
Mais nous, on pense qu'on est plus... La vérité, c'est plus proche du moins 20 %.
Doc Renaud, ça vous achale-tu quand vous entendez à la radio, à la télé, qu'on parle constamment de vos salaires?
Ben moi, ça ne me gêne pas, parce que je suis pas gêné du salaire que je fais pour la formation que j'ai puis le travail que j'ai investi. Là.
Parce que souvent, c'est le salaire qui rentre en ligne de compte. J'écoutais une ligne ouverte à Montréal, je pense que c'est la semaine passée, puis il parlait justement de la rémunération des médecins. Puis on dirait que les gens, je ne sais pas à quoi ils pensent, combien devrait gagner un médecin, mais bon, vous avez été à l'université, vous pouvez du jour au lendemain, M. Renaud, avec votre formation, faire aller travailler aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes informé. J'espère que vous allez rester ici là, avec ce que je vais vous dire, mais vous pourriez même doubler, même peut-être tripler dans votre salaire aux États-Unis.
Ce qui m'agace le plus quand on parle de rémunération,
c'est
que le ministre Dubé n'arrête pas de parler. On a un 9 milliards qu'on donne aux médecins. C'est pour ça que le système va mal, on n'a pas d'accès. En 2019, toute la santé coûtait 40 milliards au Québec. Et la rémunération qui est associée aux médecins était 9 milliards à ce moment-là. On est en 2025, le système coûte 60 milliards. La rémunération des médecins est encore de 9 milliards. Donc, il y a eu 50 % d'augmentation, mais les médecins n'ont pas touché un sou de plus depuis 2019. Donc, le gouvernement n'en parle pas de ça, là, de ce... le fait que ce n'est pas les médecins qui font que le coût est plus haut.
Qui conseille le premier ministre du Québec? Qui conseille le ministre de la Santé pour en arriver avec des idées qui semblent être sans queue ni tête pour les médecins?
Je ne sais pas qui le conseille. Nous, on a des travaux avec les gens du ministère. On partage des données avec eux. Malheureusement, ce n'est pas celle-là que le ministre utilise. Donc, même son ministère, il n'a pas l'air de les écouter. Il fait plutôt des déclarations un peu... mensongère, que je pourrais dire, par rapport à des enjeux. Puis moi, je trouve ça triste pour la population.
Mais ça, l'objectif, c'est de vous faire mal paraître pour augmenter la pression sur vous?
Bien, c'est sûr qu'il est en négociation avec les médecins.
Ouais.
Donc, s'il nous fait mal paraître, puis la population est de son côté, ça lui donne un peu plus de pouvoir. Si la population connaît la vérité, puis se rend compte que c'est... Oui, les médecins sont bien payés, mais pas mieux payés qu'ailleurs au Canada... Puis nous, ce qu'on demande comme Fédération des médecins omnipraticiens de Québec, c'est écoutez, laissons faire le salaire. On est tanné d'entendre parler. Demandons à un arbitre de trancher. Si, M. Dubé, vous êtes si sûr qu'on est trop payé, bien, l'arbitre baissera notre salaire. Mais nous, quand on se compare, on sait qu'on est moins bien payé que la moyenne canadienne. Donc, on pense qu'il y aura une augmentation. Le ministre Dubé l'a même dit récemment, hein, pourquoi je veux parler en arbitrage? Parce que ça va coûter 1,8 milliard. Donc, même s'il nous dit qu'on est trop payé, de l'autre côté, il se rend compte que si un arbitre donne une décision, elle va être en faveur des médecins.
Comment est le moral des troupes chez nos médecins? Est-ce que ça va bien mentalement, physiquement? Est-ce que, ou il y en a qui pensent tout simplement quitter la profession? Ou encore pire, ce qui pourrait nous arriver, c'est toutes des gens qui s'en vont dans le privé?
Ça va pas bien. Les médecins sont très, très déçus de la façon que ça se passe. Ils sont déçus de se faire un peu diminuer sur la place publique. Puis, dans la région là, où je travaille, on a 30 % des médecins. Ça, c'est 198 médecins qui ont plus de 60 ans, qui s'occupent du tiers de la population là, en inscription individuelle. Eux peuvent partir. Puis on a fait un sondage auprès de nos membres pour savoir, mais si le projet de loi 106 arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Puis, à ma grande surprise, il y en a 62 % de ces 198-là qui ont dit « je vais devancer ma retraite ». On ne peut pas se permettre de perdre même 10 % de ces médecins-là. Là.
Ça serait catastrophique.
Ça serait catastrophique. Donc, si 62 % ont écrit dans le sondage ce qu'ils vont vraiment faire, il n'y aura plus d'accès là, pour un médecin de famille dans la région.
Quand on parle du privé versus le public, là, j'ai un couple d'amis dans le secteur de Québec qui sont deux médecins. Eux ne pratiquent pas au Québec parce qu'il y a différentes règles au Québec qui s'appliquent versus d'autres à l'extérieur du Canada où ça ne s'applique pas pantoute. Ils peuvent travailler à distance, font de la télémédecine, peuvent aller faire des contrats dans certaines provinces sans aucun problème, sont légers, nourris avec un salaire qui est vraiment très bon. Puis quand je leur dis « Hey, pourquoi vous ne travaillez pas au Québec? Vous auriez la paix, vous auriez une base. » Ils me disent « Non, on va perdre de l'argent. » Puis en plus, c'est compliqué parce que si tu veux travailler un petit peu au privé puis un petit peu au public pour aller aider, les lois te compliquent la tâche. C'est quoi? Comment ça fonctionne ici au Québec quand on est un médecin? Est-ce qu'on a le droit de travailler au public et au privé en même temps?
Non, c'est interdit de
Mais
faire les deux.
Mais pourquoi c'est si compliqué que
la
ça?
La seule
là?
Façon de travailler au privé et au public, c'est de faire de l'esthétique au privé,
ouais.
Puis de faire de la médecine traditionnelle là, dans le public.
Okay. Mais vous, dans votre cas, là, vous êtes urgentologue, vous êtes aussi médecin de famille. Pourquoi vous ne pourriez pas aller dans une clinique privée pour aller faire un 8 heures là ou un 10 heures là pour prêter main forte? Qu'est-ce que ça enlève au gouvernement?
Je ne sais pas ce que ça leur enlève, mais ils ont fait le projet de loi 83 qui est devenu une loi,
ouais.
Qui empêche les médecins de passer au privé. Les derniers médecins de famille, là, les 15 derniers qui ont essayé de s'en aller vers le privé parce qu'ils sont épuisés par les conditions puis qui voient le projet de loi 106 s'en venir, se sont fait refuser d'aller au privé. Avant ce projet de loi, les médecins pouvaient décider de changer leur pratique, d'aller faire 100 % de leur pratique au privé.
Ouais.
Puis maintenant, ce projet de loi-là l'interdit. Donc, certains, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de quitter la province puis aller pratiquer ailleurs. On a vu en Outaouais qu'ils sont qui sont collés sur l'Ontario.
Ouais.
Il y a des médecins qui changent de province. Des médecins qui ont été formés ici, des médecins qui offraient des services.
Mais Doc, juste pour être sûr, demain matin, vous êtes tanné de ce qui se passe dans le système de santé au public. C'est pas votre cas. Vous êtes un passionné. C'est une vocation pour vous. Vous n'auriez pas le droit. Faudrait que vous demandiez la permission pour aller travailler au privé pour exercer votre métier.
Depuis que le projet de loi 83 a été adopté, c'est le cas. Puis, ce que Santé Québec fait, c'est qu'il les refuse. Les seuls qui peuvent le faire actuellement, c'est des chirurgiens qui n'ont pas d'accès à des blocs opératoires, qui décident, pendant leurs vacances, de dire ben, « je vais aller faire 2 semaines au privé, puis je vais revenir après ». Donc ça, c'est eux, à date, ont des permissions qui leur sont données.
OK, c'est assez particulier. Est-ce qu'ailleurs, c'est comme ça aussi?
Peut-être à Cuba, en Chine et en Corée du Nord, mais pas ailleurs.
Ah oui! Parce que quand ils m'expliquaient ça, mon couple d'amis, là, je me disais, ben ça doit être bon, ça doit être dans leur tête. Là. J'imagine que ça doit être plus simple au Québec. Mais là, ce que vous me confirmez, c'est ça. Ça demande des permissions. Puis ben souvent, c'est des permissions qui ne sont pas octroyées. Mais un médecin qui décide, bon, en fin de carrière à 60 ans, « Hey, je vais aller faire un tour, je suis au privé. » Mais je vois qu'il y a besoin d'aide au public. Je vais aller faire 2 jours par semaine à l'hôpital.
Il va falloir qu'il abandonne sa pratique au privé s'il veut faire ça.
Mais vous imaginez-vous à quel point on est peut-être responsable des problèmes qu'on crée, là? Des problèmes qu'on a.
C'est un projet de loi qui vient de passer, là. Ça s'est fait dans la dernière année.
Puis en quoi ça améliore le système?
En fait, moi, ma perception, c'est que les médecins qui offrent des services au privé offrent aussi des services à la population, là. Donc oui, il n'y a probablement pas toute la population qui a les moyens de se le payer, mais les gens qui décident par choix d'aller voir un médecin au privé peuvent avoir le droit.
Ouais. Qu'est-ce qui arriverait demain matin si on décidait, bon ben l'acte pour quelqu'un qui a la grippe, ça vaut tant, puis on donnait ça autant à l'hôpital qu'à la clinique privée, qu'est-ce qui arrive demain matin?
Ben, il n'y a plus de médecin au privé.
Et au public, vous voulez dire?
Non, au privé.
Au privé?
Parce que l'acte actuellement au privé, est à peu près 5 fois le montant de ce que le gouvernement nous donne au public. Quand vous allez dans une clinique privée, généralement, ça va coûter à peu près 250 $ une visite.
Ouais.
Dans un groupe de médecine familiale, votre médecin qui vous suit là, de façon individuelle, lui, sa visite lui donne 50. Donc, les médecins du privé ne réussiront pas à arriver avec les tarifs du public. Là.
Je comprends.
C'est ce qui se fait dans les autres provinces, par exemple. C'est pour ça que le privé n'est pas très populaire dans les autres provinces, parce que si tu veux pratiquer au privé en Ontario, ben, il faut que tu utilises les codes du public.
Puis est-ce qu'elle n'est pas là, la solution?
Ben, ça va ramener les médecins du privé dans le public.
Ben, c'est pas ça l'objectif.
C'est le gouvernement qui...
Parce que ce qu'on me raconte, moi, j'ai des amis infirmières qui ont décidé de s'en aller au privé parce qu'elles voulaient choisir leurs horaires. Bon, elles travaillent pour des cliniques privées, elles choisissent leur horaire. Il n'y a pas de temps supplémentaire qui leur est imposé et elles sont très heureuses. Mais demain matin, on offre les mêmes conditions au public avec le même salaire. D'après moi, ils pourraient retourner dans le public sans aucun problème, là. S'ils peuvent choisir leur horaire, bien entendu.
Les médecins qui vont au privé ne le font pas nécessairement juste pour l'argent. Il y a effectivement toutes les conditions de travail autour. Ils ne se font pas dire par le ministre Dubé, vous allez voir 18 millions de patients, vous allez avoir une clinique fast-food, une médecine fast-food, avoir un problème parce que vous devez voir les patients en 15 minutes maintenant si vous voulez atteindre nos cibles. Donc, il y en a qui, par choix, décident de quitter comme ça. Puis il y a d'autres règles aussi qui sont très restrictives. Un jeune médecin qui finit sa résidence, donc qui est prêt à commencer la médecine, ben il doit appliquer sur des postes régionaux de médecine générale.
C'est là où je voulais vous amener.
Donc, ouais. À ce moment-là, le jeune, lui, il dit, bon, ben moi, je veux pratiquer à Québec. Malheureusement, il n'y a pas de place pour toi au Québec dans le public. Ben, dis-moi, ma conjointe a un travail ici et elle ne peut pas se déplacer dans une autre région. Donc, il va décider qu'il commence sa pratique au privé. Là, le projet de loi 83 vient d'annuler ça. Donc, ce jeune médecin-là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'en aller pratiquer dans une autre province, puis là, sa conjointe va suivre? Est-ce qu'il va décider d'aller faire seulement de l'esthétique? Parce qu'il aura le droit de faire de l'esthétique seulement dans la région où il veut pratiquer. Donc, il y a plein d'enjeux qui arrivent de ces restrictions-là. Puis en plus, le gouvernement met des activités médicales particulières. Donc, dans chaque région, il y a un groupe de médecins qui analysent où sont les plus grands problèmes en accès. Mm-hmm. Ou des découvertures en CHSLD, puis qui dit au médecin, bien, vous, dans la région, vous allez travailler à tel CHSLD, si vous voulez travailler ici, 12 heures par semaine. Donc là, le médecin, il ne peut pas offrir des services de première ligne à temps plein parce qu'il y a 12 heures par semaine à faire pendant 15 ans dans un milieu que le groupe de médecins qui s'occupe de ça par région lui dit de travailler. Puis après ça, le ministre Dubé, il dit, il n'y a pas assez de médecins en première ligne, mais ils sont obligés, les jeunes médecins, pendant 15 ans, de faire des activités médicales particulières en deuxième ligne.
OK. Et dans votre cas, à vous, quand vous êtes sorti au début des années 2000, vous êtes devenu médecin, est-ce qu'ils vous ont imposé une région?
Moi, c'était avant que, avant que ce programme-là arrive. Donc, j'ai réussi à m'installer à Québec sans problème. Puis, j'ai pu pratiquer même en salle d'urgence à temps plein sans avoir à faire de première ligne.
Donc, un médecin, je ne sais pas, on prend Montréal, un médecin qui sort de l'université à Montréal travaillera pas nécessairement à Montréal. On peut l'envoyer dans le nord du Québec, on peut l'envoyer dans l'est du Québec sans aucun problème. En fait, c'est tough, là.
On décide pas nécessairement où il s'en va. Par contre, il y a un nombre de postes qui sont disponibles dans chaque région.
Ouais.
Montréal, à chaque année, il y a plus de demandes que de postes. Donc, le médecin va pouvoir dire, bon, ben, je voulais m'installer à Montréal où j'ai déjà mon appartement, j'ai déjà toutes mes choses, mais bon, je peux pas, je vais aller pratiquer au Saguenay parce qu'il reste des places au Saguenay. Puis après un nombre d'années, il va pouvoir faire une demande de changer de région. Mais effectivement, là, c'est un des facteurs qui fait que les étudiants ne choisissent pas la médecine familiale. Année après année, il y a entre 50 et 70 postes de médecine familiale de disponibles pour les étudiants qui ne choisissent pas cette spécialité-là parce qu'ils se disent, je ne sais pas où je vais travailler, les conditions sont affreuses, puis je vais aller faire une autre spécialité à la place.
Le gouvernement laisse croire que les médecins peuvent être paresseux. C'est-tu quelque chose qui vous achale?
Oui, ça m'achale. Puis ça va à l'encontre de toutes les données que le ministère a. Et même le groupe de DHEC qui a été mandaté par le ministre Dubé nous dit « La moyenne d'heure des médecins, c'est 46 heures par semaine. » Si on se compare avec les 35 heures que les fonctionnaires ou plusieurs personnes travaillent par semaine, bien, c'est 30 % de plus d'heures qui sont faites actuellement par les médecins. De façon, donc, de dire qu'ils sont paresseux sur cette base-là, ça fait pas de sens pour moi.
Avez-vous des congés parentaux?
Oui, il y a des congés parentaux qui sont permis, là, puis qui sont financés par la Fédération pour les femmes médecins.
Okay.
Pour les hommes, c'est à leurs frais quand ils décident d'en prendre. Puis, généralement, les départements leur donnent les mêmes conditions que les normes du travail donnent pour les congés parentaux.
Avez-vous le droit d'avoir du temps partiel quand vous êtes pré-retraité?
Bien, c'est compliqué parce que les médecins qui sont en première ligne ont un nombre de patients à suivre. Donc là, il y a des règles qui ont été faites là, dans les deux dernières années pour essayer de pouvoir diminuer cette quantité-là, puis plutôt qu'ils partent du jour au lendemain, puissent diminuer leur pratique. Mais c'est quand même difficile pour des médecins d'abandonner une partie de leur clientèle.
Avez-vous des congés de maladie?
Non.
Donc pour vous, dans votre cas, ce qu'on souhaite pas, le jour où vous tombez malade, pendant trois semaines, un mois, il n'y a pas de rentrée d'argent.
Puis je paye une assurance si j'ai un congé de maladie prolongé.
Ouais.
Mais pour diminuer les primes, la majorité des médecins ont dit que le remboursement de leur congé de maladie commence à 90 jours, donc après trois mois. Donc, si je tombe malade, moi, pour une période de 45 jours, ben c'est à mes frais.
OK. Fait que vous n'avez pas les moyens de tomber malade, de ce que je comprends. On a le plaisir de passer la soirée en compagnie du docteur Pascal Renaud. Il est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Merci beaucoup de prendre 60 minutes avec nous. On va continuer tout de suite après la pause, docteur Renaud, si vous le voulez bien. On revient tout de suite.
Parfait, merci.
Marceau, le soir. Le pit stop. Le duo Gravel-Marceau est de retour maintenant à 7h45 pour traiter des gros dossiers du jour. Votre nouveau rendez-vous incontournable du matin. Le pit stop. Le pit stop.
Ben, y a plein de femmes et d'hommes d'affaires qui réussissent et qui sont Asperger ou sont sous le spectre de l'autisme.
Steve Jobs.
C'en était un Asperger.
Albert Einstein, semble-t-il, en était un. C'est drôle parce que tu parlais d'Asperger tantôt. Puis ça fait 3-4 ans de ça. Puis on a reçu quelqu'un qui est Asperger, qui nous a parlé de sa réalité, puis à la fin de l'entrevue, on lui dit merci. Il dit dans le fond, il dit on l'est tout un peu Asperger. Il dit je sais pas, mais toi, c'est pas mal sûr que t'en es.
Le Pit Stop 7h45 à Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine.
Oyez, oyez! Ce message d'intérêt général est pour vous annoncer que la toute première sauce à poutine de la fromagerie Bergeron est la sauce idéale pour préparer une poutine classique avec les brins de Gouda Bergeron.
Inspiré d'une recette traditionnelle québécoise, son goût savoureux vous fera déguster votre meilleure poutine. Et vous, quel est votre ingrédient secret qui rend votre poutine exceptionnelle? Inscrivez-le au blvd.fm et vous pourriez gagner 50$ chez Fromagerie Bergeron. Boulevard 102-1 et la Fromagerie Bergeron, le duo parfait pour se régaler.
Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement leur promo tout un quart, tout un prix, avec la cuisse de poulet servie avec tous les accompagnements à seulement 8,95 $ au comptoir et au service à l'auto.
Si tu vas à l'événement de réduction d'inventaire d'équipements neufs de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, toi aussi tu pourrais siffler en travaillant.
C'est le moment idéal pour changer de véhicule. Chez Marlin Chevrolet Buick GMC, profitez de 0% de financement sur tous nos modèles 2025. Que vous rêviez d'un Chevrolet Trax, d'un GMC Sierra ou d'un élégant Buick encore GX, obtenez le meilleur taux. 0% de financement, c'est imbattable. Passez chez Marlin Chevrolet Buick GMC au 2145 rue Frank Carrel dès aujourd'hui et repartez au volant de votre nouveau 2025 sans attendre.
Un nouveau joyau voit le jour à Québec. La Perle condo locatif. Livré le 1er juillet 2026 et soigneusement intégré au quartier Mosaïque. La Perle offrira des condos locatifs à l'ambiance et au design contemporain où chaque détail a été pensé pour vous. Pour découvrir ce trésor naturel qui prône l'art de vivre en plein cœur de Le Bourgneuf et pour obtenir votre privilège de réserver votre unité, rendez-vous sur vivrelaperle.com dès maintenant. La Perle, un joyau de condos locatifs à Québec.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à supprimer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus, jeu gratuit et uniquement, jouer de façon responsable.
On dit que rien ne se perd et que rien ne se crée. C'est parce que tout se transforme. Même Énergir. Parce que chez Énergir, on fait aller notre réseau pour que notre clientèle consomme mieux et moins d'énergie. On fait aller notre réseau pour distribuer de moins en moins de gaz naturel fossile. Et on fait aller notre réseau pour assurer une complémentarité d'énergie bénéfique pour toute la société. Énergir avance dans la transition énergétique et n'a pas l'intention de s'arrêter. Parce qu'on ne perd rien à se transformer. Énergir. Pensez l'énergie autrement.
Chez Desjardins, on a décidé de décompliquer les placements. On trouvait que c'était une bonne idée. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Comme ce message radio.
Hey, Martin! Savais-tu que Desjardins avait décompliqué ses portefeuilles de fonds?
Ah oui, hein?
Ouais.
Décompliquer les placements. Fallait y penser. Découvrez nos portefeuilles de fonds Desjardins simplifiés. FNB, stratégie active et sociétaire. Offert en caisse ou en ligne. Certaines conditions et modalités peuvent s'appliquer. Visitez desjardins.com/fonds-desjardins.
Dans la PME de Julie, le commerce de Benoît ou une grande entreprise, tout le monde a un rôle à jouer en matière de santé et de sécurité au travail. Depuis le 1er octobre 2025, la loi sur la santé et la sécurité du travail a été modifiée. Et les plus grands, comme les plus petits milieux de travail, ont de nouvelles obligations concernant les mécanismes de prévention et de participation. Pour connaître les changements qui vous concernent, visitez le cnsst.gouv.qc.ca/nouveautés-sst. Un message de la CNESST.
Ben, passerais-tu la scie, mon grand? Question de lâcher ton téléphone.
Ah, mais est-ce pas un métier, couper des branches aussi proche des fils?
Franchement, je suis capable...
Tailler des branches près des fils électriques pourrait couper court à votre vie. Restez à plus de 3 mètres. Ceci est un message d'Hydro-Québec.
Il vous reste jusqu'au 13 octobre pour profiter des couleurs d'automne chez Canot Légaré. Une activité en nature en paddleboard, kayak ou canot pour moins de 20$ par personne. Découvrez le plaisir de pagayer l'automne chez Canot Légaré. Visitez canot avec un S, légaré.com.
Rock and chill, ça veut pas dire rock détente. Ça veut juste dire qu'on est relax. C'est... le même feeling que d'assister au MTV Unplugged de ton band préféré, mais dans ton salon, des covers, des versions acoustiques, un paquet d'affaires qui s'écoutent bien tranquille la fin de semaine.
Le spécial Rockin' Chill, toute la fin de semaine de l'Action de grâce. Présenté par la clinique Pierre-Réseau-Rive-Sud à Saint-Romuald. Évaluez la démarche de vos enfants avec analyse comparative par vidéo. Pierre-Réseau.com à Saint-Romuald.
Ce mois-ci, chez Laval Volkswagen, conduisez l'ID4 2025 et profitez de 5000 $ de rabais et d'un financement à 0 % pendant 60 mois. Oui, oui, 0 % d'intérêt et sans oublier la subvention gouvernementale de 4000 $. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Qu'ont en commun un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur? Ben, c'est tout du monde qui aime ça siffler en travaillant fort. Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien, JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement un événement de réduction d'inventaire neuf. Ils font aussi un événement d'équipements usagés. Ils ont toutes les marques. Des John Deere, des bleus, des jaunes, des rouges. Ils ont même des oranges. Fait que si tu trouves pas là, ça veut peut-être dire que tu sais pas siffler. Pour tous les détails, va sur jldlagu.com.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est... BLVD.
Boulevard 102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102-1. On passe la soirée en compagnie de Pascal Renaud, docteur Pascal Renaud, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Merci, M. Renaud, d'être là ce soir. Il reste quelques sujets à aborder. Avez-vous l'impression qu'on va dénouer l'impasse avec le ministre Dubé, ministre de la Santé, qui vous maltraite un peu dans les médias à chaque conférence de presse? À un moment donné, est-ce qu'il va y avoir négociation puis vous allez vous entendre?
On n'a jamais arrêté de négocier là, avec lui, quoi qu'il en a dit.
Ben, il dit que vous n'êtes pas à table des discussions. Là.
Cet été, il y a eu 14 rencontres de négociation. La Fédération des médecins spécialistes et des médecins omnipraticiens de Québec ont montré ces dates-là là, de façon publique. Là. Donc, je pense qu'il y a encore un jeu de manipulation politique là, dans tout ça. Mais oui, ça va prendre une entente. Ça prend une entente. Puis nous, ce qu'on pense, en cas de... Il y a une médiation qui est en cours. Si jamais il échoue, je pense qu'il faut se rendre vers un arbitre.
Les médecins demandent l'arbitrage pour dénouer l'impasse de la négociation de l'entente cadre qui est échue depuis 3 ans. Ça aussi, c'est un truc qui est assez particulier de la part du gouvernement pour ce qui est des négociations, que ce soit avec les négociations avec les médecins ou encore les négociations de conventions collectives. On attend tout le temps que ce soit terminé pour commencer peut-être un jour à pouvoir négocier. Puis là, il arrive avec des moyens de pression et tout ça. La population vous dit quoi, Doc, quand elle vous rencontre? Vos membres vous disent quoi quand ils vous rencontrent?
Les membres nous demandent d'être plus agressifs dans les moyens de pression. Ils sont tannés. Là, ça fait plus de 2 ans et demi que notre entente est échue.
Mais vous n'avez pas le droit de faire des moyens de pression? Vous occupez de la santé des gens?
Exact. En fait, ce qui est quand même de façon très éthique là, de la Fédération, c'est on ne veut faire aucun moyen de pression qui va toucher la population. On ne peut pas ne pas offrir de soins à une population qui en a besoin. Ça, c'est clair pour nous. Par contre, les activités médico-administratives, participer à des réunions, ça ne nuit pas à la population. Actuellement, c'est des moyens de pression qui sont utilisés.
Est-ce qu'il y a trop de paperasse pour ce qui est de nos médecins? Est-ce que, tu sais, moi, je suis flabbergasté des fois quand je vois que dans l'actualité, on fonctionne encore avec des fax. Y a-t-il des moyens technologiques qui s'en viennent dans les prochaines années, Doc, qui vont faire en sorte qu'on va améliorer votre travail puis l'accessibilité aux soins pour ce qui est des patients?
Il y a beaucoup trop de paperasse encore, ça, c'est clair. Le temps qu'on prend à écrire des notes médicales est aussi très élevé. Puis ça, il y a eu une percée technologique au cours des dernières années. Il y a des appareils qui écoutent la conversation entre le patient et son médecin, puis qui rédigent la note médicale pour le médecin. C'est pas parfait. Le médecin doit faire des petites modifications. Par contre, c'est une option qu'on a pour gagner du temps, puis qui devient de plus en plus populaire là, auprès des médecins, parce que ce temps-là peut être investi à d'autres choses, dont voir des patients supplémentaires.
On manque de médecins, il n'y en a pas assez. Il y a eu une amélioration, mais il n'y en a pas assez qui sortent des écoles de médecine année après année. Par contre, on ne manque pas de cadres et on ne manque pas de gens qui travaillent dans les bureaux. Est-ce que vous constatez à travers vos pratiques que des fois, il y a comme trop de chefs pour ce qu'il y a d'Indiens dans l'hôpital?
Oui, ça c'est clair. Là. Puis on a vu au cours des dernières années, depuis 2019, il y a 3500 cadres de plus en santé. Si on essaie d'évaluer combien ça coûte, c'est des milliards de dollars, là, qui ne vont pas à des soins directs à la population. Puis ces cadres-là, souvent, c'est des professionnels de la santé, souvent des infirmières, des inhalothérapeutes, des gens qui vont s'impliquer au niveau administratif au gouvernement, mais qui ne sont plus là pour offrir des soins à la population. Donc, cette hiérarchie-là protège probablement le ministre. Là. Moi, au début, j'étais pour Santé Québec. Je dis, enfin, on va dépolitiser le système de la santé. Mm-hmm. Par contre, ce qu'on a vu au fil du temps, c'est que c'est une muraille de plus pour protéger le ministre. À chaque fois que quelque chose va bien dans le réseau, c'est la faute du ministre, pourquoi ça va bien. Quand ça va mal, maintenant, c'est la faute de Santé Québec.
Doc Pascal Renaud, vous êtes président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous aviez des recommandations à faire pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que les négociateurs de son entourage, qu'est-ce que vous auriez à leur dire?
Bien, premièrement, regardez la littérature médicale mondiale. Ce qui est clair dans la littérature, c'est que lorsque des soins de première ligne sont de qualité bien financés, ça diminue les coûts globaux de santé. Donc, il faudrait investir en première ligne. Puis la première ligne, ce n'est pas juste les médecins de famille. C'est aussi les physiothérapeutes, c'est aussi les infirmières, c'est aussi d'autres personnes qui peuvent nous aider dans les cliniques à avoir plus de patients. Je peux lui dire aussi, au ministre Dubé, on a la même intention que lui. Là. On veut que toute la population soit desservie par des médecins. Mais actuellement, il en manque 1 500 à 2 000. Puis tant que les conditions ne seront pas meilleures pour qu'on ait plus de médecins de famille qui prennent 7 ans d'université à former, bien, on n'en aura pas plus. Donc, si sa vision, c'est d'améliorer les soins à tout le monde, bien, il faut qu'il y ait plus de médecins de famille. On n'a pas le choix.
Est-ce que, parce qu'on a eu des médecins qui ont été ministres de la Santé ou encore premier ministre, Philippe Couillard, entre autres, qui était médecin. On a eu Dr. Gaétan Barrette. On n'a jamais eu l'impression que ça s'est amélioré depuis 2 décennies là, en santé. Ça prend qui à la tête de la santé pour que enfin ça fonctionne à un moment donné? Si 2 médecins sont passés, ça n'a pas fonctionné. J'oublie quelques autres des médecins, là, mais si 2 médecins sont passés, qui ont regardé comment ça allait puis ils ne l'ont pas amélioré, qu'est-ce que ça prend?
Bien, Philippe Couillard a quand même laissé un surplus de 7 milliards à l'État quand il était premier ministre.
Ouais.
C'était un médecin qui gérait, qui était le premier ministre. Puis maintenant, on a des hommes d'affaires, puis on a un déficit de 14 milliards. Donc, je peux pas dire que les médecins ont eu des problèmes de gestion. Ceci dit, ça prend moins de règles, ça prend plus d'imputabilité directement aux médecins, plus de pouvoir aussi.
Ouais.
Beaucoup trop de top-down depuis la pandémie où des directives viennent du ministère, doivent s'appliquer partout dans le réseau en bas, quand les enjeux sont différents à Montréal, à Québec et à Chibougamau, par exemple. Donc, laisser plus là, de liberté à chaque région d'organiser leurs soins de santé en fonction des besoins de leur population.
Quand on regarde le système de santé puis le système informatique qu'on était supposé de bâtir pour améliorer les choses, ça vous décourage-tu un peu?
Ça me décourage parce que...
Parce que vous êtes encore au fax à certains endroits, ça n'a juste pas de sens.
Ça me décourage parce que ça prend un système comme le dossier de EPIC, là, le dossier santé numérique.
Ouais.
Ça prend un système fonctionnel. Le problème, c'est l'explosion des coûts actuellement. Je pense que ça va être le deuxième saclic, donc... Peut-être qu'il faut poser tout de suite les questions au ministre avant qu'il s'en rappelle plus en comité d'enquête plus tard. Là.
Parce que là, on est en train de penser à payer les pénalités pour mettre fin au projet, mais ça ne vous aidera pas plus, vous, dans votre travail au day-to-day.
Surtout que depuis 2 ans, parce que tous les établissements savent qu'il y a un nouveau projet qui s'en vient, tous les budgets étaient bloqués en informatique. Donc, il n'y a eu aucun développement dans les 2 dernières années. Puis, je vous parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle pour écrire les notes médicales. Dans mon hôpital, ça me prend 2 minutes par intervention où je veux copier ma note produite par l'intelligence artificielle dans le système. Si dans une journée, parce qu'il y a des patients que je vois 2 fois, 2 fois, que je vois 3 fois, si ça me fait 50 contacts avec les patients, ben c'est 100 minutes que je n'ai pas à donner aux patients, alors que ça devrait se faire en un clic. Mais actuellement, les hôpitaux disent « j'ai aucun budget pour améliorer l'informatique, on utilise ce qu'on a déjà ». Puis même si ça vous prend du temps, ça va être ça.
Alors, je ne sais pas, M. Renaud, merci d'être là, ainsi que tous vos collègues et les gens qui travaillent en santé. C'est une vocation, puis vous semblez être encore passionné de votre métier. Dr. Pascal Renaud, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec, merci beaucoup pour ce 60 minutes dans Mars au soir.
Merci de m'avoir reçu.
On se refera ça dans quelques mois, dans l'espoir que Christian Dubé puisse entendre votre parole, où qu'il soit.
Bien, merci.
Merci. Au revoir. On s'arrête. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain. Salut tout le monde. Bye. Mars.
tôt le soir.
Chez Anti-Rouille Métropolitain, c'est l'automne. Protégez votre véhicule contre la rouille dès maintenant. Prenez rendez-vous sur antirouille.com. Anti-Rouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
OK, les gars, grosse game à soir. C'est l'événement le plus bel arrêt Hyundai. Puis les Tucson sont en uniforme.
Pour la version hybride rechargeable offerte au financement à partir de 2,99% avec jusqu'à 2 500 $ de rabais additionnel de Hyundai du gouvernement du Québec.
Oui, monsieur. Puis aussi la version Preferred à traction intégrale en location à 95 $ par semaine avec 2 895 $ d'acompte à 5,99%.
Ben là, on te batte. On va faire quoi?
On y met du cœur. Ben du cœur. Let's go, les gars!
Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Saviez-vous que Scoop Vision, c'est la place pour vos lunettes? Ils ont de grandes marques et un service A1, mais au prix du web. Rendez-vous au scoopvision.com.